Chapitre 14. Du Beleriand et de ses royaumes. Voici quelle était la forme des terres où s'établirent les Noldor, dans le nord des régions occidentales de la Terre du Milieu, au temps jadis. Et il sera dit également comment les chefs des Eldar défendirent leurs terres et soutinrent le blocus contre Morgoth après la Dagor Aglareb, la troisième bataille des guerres du Beleriand. Dans le nord du monde, en d'autres temps, Melkor avait élevé Ered Engrin, les montagnes de fer, pour servir de rempart à sa citadelle d'Utumno. Et elle se dressait à la lisière des régions perpétuellement froides, formant une grande courbe d'est en ouest. Derrière la muraille des Ered Engrin, du côté ouest, où les montagnes s'infléchissaient vers le nord, Melkor avait bâti une autre forteresse afin de contrer tout assaut du Valinor. Et à son retour en Terre du Milieu, comme il a été raconté, il élut à nouveau domicile dans les vastes souterrains d'Angband, les enfers d'acier. Car lors de la guerre des puissances, les Valar, pressés de le renverser dans sa grande forteresse d'Utumno, ne détruisirent pas entièrement Angband et n'en fouillèrent pas toutes les profondeurs. Sous les Ered Engrin, il creusa un grand tunnel débouchant au sud des montagnes. Et à cet endroit, il érigea un imposant portail. Mais au-dessus de ce portail, et derrière celui-ci jusqu'aux montagnes mêmes, il amoncela les tours orageuses du Thangorodrim, bâties de la cendre et des scories de ses fournaises souterraines et du vaste rebut de ses forages. Noires et désolées elles étaient, démesurément hautes, et leurs cimes crachaient des fumées noires et délétères dans le ciel septentrional. Devant le portail d'Angband, l'ordure et la désolation s'étendaient au sud sur de longs milles dans la vaste plaine d'Ardgalen. Mais après la venue du soleil, il y poussa une herbe luxuriante, et cependant qu'Angband était assiégé et que ses portes restaient closes, des plantes purent même prendre racine au milieu des crevasses et des roches fracassées aux portes de l'enfer. À l'ouest du Thangorodrim s'étendait le Isilomé, le pays de la brume, car c'est ainsi que les Noldor l'appelaient dans leur langue, à cause des nuages que Morgoth envoya lorsqu'ils y établirent leur premier campement. Ce devint le Ithlom dans la langue des Sindar, qui peuplait ces régions. C'était une jolie contrée tant que dura le siège d'Angband, bien que l'air y fût frais et l'hiver rigoureux. À l'ouest, elle était bornée par Ered Lomin, les montagnes de l'écho, qui couraient le long de la mer. Et à l'est et au sud, par le grand arc d'Ered Wethrin, les montagnes ombreuses, qui regardaient vers Ardgalen et le Val du Sirion. Fingolfin et son fils Fingon tenaient le Ithlom, et la plupart des gens de Fingolfin demeuraient au Mithrim, sur les rives du Grand Lac. Fingon avait la charge du Dorlomin, lequel s'étendait à l'ouest des montagnes du Mithrim. Mais leur principale forteresse se trouvait à Eithel Sirion, dans l'est des Ered Wethrin, d'où ils assuraient la surveillance d'Ardgalen. Et leur cavalerie parcourait cette plaine jusqu'à l'ombre même du Thangorodrim, car leurs chevaux, d'abord peu nombreux, avaient rapidement prospéré, et l'herbe y était riche et verdoyante. Bien des paires de ces chevaux provenaient du Valinor, et Fingolfin les reçut de Maedros en réparation de ses pertes, car ils avaient été amenés par navire à l'Osgard. À l'ouest du Dorlomin, au-delà des montagnes de l'Écho, qui au sud de l'estuaire du Drengist rentrait vers l'intérieur des terres, s'étendait le Nevelast, ce qui en langue sindarine signifie « le rivage citérieur ». Ce nom s'appliquait au départ à l'ensemble des terres côtières au sud de l'estuaire, avant de se limiter au pays dont le littoral était compris entre le Drengist et le mont Taras. Ce fut, maintes années durant, le royaume de Turgon le Sage, fils de Fingolfin, bordé par la mer, par les Ered Lomin et par ces collines qui complétaient la muraille des Ered Wethrin du côté ouest, de l'Ivrin au mont Taras, lequel se dressait sur un promontoire. D'aucuns considéraient le Nevelast comme partie du Beleriand plutôt que du Ithlom, car c'était un pays plus clément, arrosé par l'humidité des brises marines et abrité des vents froids qui soufflaient sur le Ithlom en provenance du nord. C'était un pays en cuvette, entouré de montagnes et de grandes falaises côtières, plus élevé que les plaines intérieures, et aucune rivière n'en sortait. Et il y avait au milieu du Nevelast un grand lac aux rives indécises, entouré de vastes marécages. Ce lac avait nom Linaewen à cause de la multitude d'oiseaux qui y vivaient, de ceux qui aiment les grands roseaux et les étangs peu profonds. À la venue des Noldor, bon nombre des elfes gris demeuraient au Nevrast, non loin des côtes, en particulier aux abords du mont Taras dans le sud-ouest, car Ulmo et Ossé avaient eu coutume de venir là-bas au temps jadis. Tous ces gens prirent Turgon pour seigneur, et Noldor et Sindar s'y mêlèrent le plus rapidement. Et Turgon demeura longtemps en ces halles qu'il nomma Vinyamar, sous le mont Taras au bord de la mer. Au sud d'Argalen, le grand plateau nommé Dorthonion s'étendait d'ouest en est sur une distance de 60 lieues. Il était couvert de grandes forêts de pins, en particulier au nord et à l'ouest. De la basse plaine, il s'élevait en pente douce jusqu'à de hautes terres désolées, où gisait une constellation de petits lacs au pied d'éminences rocheuses, dont le faîte dépassait les cimes des Eredwethyn. Mais au sud, où il regardait sur le Doriath, le pays plongeait soudainement en de vertigineux précipices. Des pentes septentrionales du Dorthonion, Angrod et Aignor, fils de Finarfin, surveillaient les champs d'Ardgalen en contrebas, et étaient les vassaux de leur frère Finrod, seigneur de Nargothrond. Leur compagnie était peu nombreuse, car le terrain était aride, et le haut pays sur leurs arrières passait pour un rempart que Morgoth n'eût songé si légèrement à franchir. Entre le Dorthonion et les montagnes ombreuses, courait un val étroit dont les parois abruptes étaient couvertes de pins. Mais le val lui-même était verdoyant, car les eaux du Sirion le traversaient, se hâtant vers le Beleriand. Finrod tenait la passe du Sirion, et sur l'île de Tol Sirion, au milieu du fleuve, il éleva une grande tour de guet, Minas Tirith. Mais après la construction de Nargothrond, il confia cette forteresse à la garde de son frère Orodreth, surtout. Or, le beau et vaste pays de Beleriand s'étendait de chaque côté du grand fleuve Sirion, que les chants ont célébré. Il sourdait à Eithel Sirion et contournait Ardgalen avant de se jeter dans la passe, toujours plus gonflée par les torrents des montagnes. De là, il coulait vers le sud sur 130 lieues, recueillant les eaux de mains affluents, jusqu'à ce qu'en un large flot, il atteignît ses multiples bouches dans le delta sablonneux de la baie de Balar. En descendant le Sirion du nord au sud, l'on apercevait à main droite, en Beleriand de l'ouest, la forêt de Brethil, entre le Sirion et le Teiglin. Puis, le royaume de Nargothrond, entre le Teiglin et le Narog. Et la rivière Narog sourdait aux chutes d'Ivrin sur la face sud du Dorlomine, et parcourait quelque 80 lieues avant de rejoindre le Sirion à Nantathren, le pays des Saules. Encore plus au sud était une contrée de prairies peu peuplées et couvertes de fleurs. Et au-delà s'étendaient les marais et les îles roselières entourant les bouches du Sirion et les sables de son delta, désertés de tous êtres vivants hormis les oiseaux marins. Mais le royaume de Nargothrond se prolongeait à l'ouest du Narog jusqu'au fleuve Nenning, lequel rejoignait la mer à Eglarest. Et Finrod devint seigneur suzerain de tous les elfes du Beleriand entre le Sirion et la mer, sauf dans le Falas. Demeuraient là ceux des Sindar qui avaient encore l'amour des navires, et Círdan, le constructeur de nefs, était leur seigneur. Mais il y avait entre Círdan et Finrod amitié et alliance, et avec l'aide des Noldor, les havres de Brithombar et d'Eglarest furent reconstruits. Ce devinrent, derrière leurs grandes murailles, de belles villes et de somptueux ports aux quais et aux jetées de pierre. Sur le promontoire à l'ouest d'Eglarest, Finrod éleva la tour de Barad-Nimras afin de surveiller les mers occidentales, précaution qui, toutefois, se révéla inutile. Car en aucun temps, Morgoth ne s'essaya à bâtir une flotte ou à livrer bataille sur l'eau. Tous ses serviteurs la fuyaient, et nul ne s'approchait volontiers des flots, sauf en cas d'extrême nécessité. Certaines gens de Nargothrond, avec l'aide des elfes des Havres, mirent de nouveaux navires en chantier, et ils partirent explorer la grande île de Balar, songeant à y établir un ultime refuge, si malheur devait arriver. Mais leur destin n'était pas d'y habiter jamais. Ainsi le royaume de Finrod était-il de loin le plus vaste, bien qu'il fût le cadet des grands seigneurs des Noldor, Fingolfin, Fingon et Maedros, et Finrod Felagund. Mais Fingolfin était tenu pour le seigneur suzerain de tous les Noldor, et Fingon après lui, bien qu'il n'ait eu pour royaume que la terre septentrionale du Ithlum. Du reste, leurs gens étaient les plus robustes et les plus vaillants, les plus redoutés des orques et les plus détestés de Morgoth. À main gauche du Sirion s'étendait le Beleriand de l'Est, lequel faisait une centaine de lieues dans sa plus grande largeur, du Sirion au Gelion, aux abords de l'Ossiriand. Et l'on rencontrait en premier lieu, entre le Sirion et le Mindeb, les étendues désertes du Dimbar sous les cimes des Crissa Egrim, demeure des aigles. Entre le Mindeb et le cours supérieur de l'Esgalduin, se trouvait le pays interdit de Nandugortheb. Et c'était là une région d'épouvante, car il était cerné d'un côté par le pouvoir de Méliane, sur les marches septentrionales du Doriath, mais de l'autre, par les terribles précipices d'Ered Golgoroth, les montagnes de la terreur, qui plongeaient du haut d'Orthonion. C'est par là qu'Ungoliant avait fui, comme on l'a dit plus haut, pour échapper au fouet des Balrogs, et pour le temps qu'elle s'y attarda, elle emplit les ravins de ses ténèbres mortelles, et même après, lorsqu'elle eut disparu, son infâme progéniture continua d'y ourdir secrètement ses maléfiques toiles. Et les eaux qui ruisselaient des Ered Gorgoroth étaient souillées et dangereuses à boire, car un nuage de folie et de désespoir assombrissait le cœur de ceux qui y buvaient. Toute créature vivante fuyait ce pays de Nan-Dungortheb, et les Noldor ne le traversaient qu'en cas de stricte nécessité par des chemins longeant la frontière du Doriath, au plus loin des collines hantées. Cette route avait été tracée longtemps auparavant, avant le retour de Morgoth en terre du milieu. Et s'il s'en trouvait un pour la suivre vers l'est, il croisait bientôt l'Esgalduin, où se dressait encore au temps du siège le pont de pierre d'Iandiaur. De là, il passait au Dor Dinen, le pays du silence, avant de franchir l'Arosiac, autrement dit les guets de l'Aros, pour gagner les marches septentrionales du Beleriand, où vivaient les fils de Fëanor. Au sud s'étendaient les forêts gardées du Doriath, royaume de Fingol, le roi caché, où nul n'avait loisir d'entrer sauf par sa volonté. Sa portion nord, la forêt de Neldoreth, la moins grande, était bornée à l'est et au sud par la sombre rivière Esgalduin, dont le cours bifurquait vers l'ouest au mi-temps du pays. Et entre l'Aros et l'Esgalduin s'étendaient les bois de Region, plus denses et plus vastes. Sur la rive sud de l'Esgalduin, à son détour vers le Sirion, se trouvaient les cavernes de Menegroth, et tout le Doriath s'étendait à l'est du Sirion, hormis une étroite région boisée entre le confluent du Teiglin et du Sirion et les mares du crépuscule. Les gens du Doriath l'appelaient Nivrim, la marche de l'ouest. De grands chênes poussaient dans ce bois, compris lui aussi dans l'anneau de Méliane, en sorte qu'une partie du Sirion, qu'elle aimait par vénération pour Ulmo, fut entièrement sous la coupe de Fingol. Dans le sud-ouest du Doriath, où l'Aros se jetait dans le Sirion, de vastes étangs et marécages s'étendaient de part et d'autre du fleuve, qui ralentissait ici son cours et se scindait en plusieurs bras. Cette région se nommait Ailin Uial, les mares du crépuscule, car elles étaient enveloppées de brume et l'enchantement du Doriath flottait sur elles. Or, toute la partie nord du Beleriand s'inclinait vers le sud jusqu'à cet endroit, puis se redressait, retenant le flot du Sirion. Mais au sud des Ailin Uial, le pays plongeait soudain de manière abrupte, et toutes les basses terres du Sirion étaient séparées des hautes terres par cette chute de terrain, laquelle apparaissait, pour qui du sud regardait vers le nord, comme une suite interminable de collines, partant d'Eglarest au-delà du Narog à l'ouest, jusqu'à Lamon Ereb à l'est, en vue du lointain Gelion. Le Narog les franchissait en une profonde gorge et traversait des rapides, mais pas de cataractes, et sur sa berge occidentale, le pays montait vers les hauteurs boisées de Taur en Pharoth. Sur le versant occidental de cette gorge, là où le Ringwil, court torrent aux eaux écumeuses, plongeait tête baissée dans le Narog depuis le haut Pharoth, Finrod fonda Nargothrond. Mais à quelques 25 lieues à l'est de la gorge de Nargothrond, le Sirion tombait du nord en une imposante cataracte au sud des mares, après quoi il passait subitement sous terre, plongeant dans de grands tunnels creusés par la force de ses chutes. Et il reparaissait 3 lieues plus loin, avec grand bruit et vapeur, à travers de grandes arches de roches au pied des collines, que l'on appelait les portes de Sirion. Cette chute de terrain se nommait Andram, la longue muraille, de Nargothrond jusqu'à Ramdal, la fin de muraille en Beleriand de l'Est. Mais dans l'Est, elle s'abaissait de plus en plus car le Val du Gellion descendait sans accident vers le Sud, et le Gellion n'avait ni saut ni rapide le long de son cours, mais coulait toujours plus vivement que le Sirion. Entre Ramdal et le Gellion, il y avait une éminence très étendue, aux pentes douces, qui semblait plus imposante qu'elle ne l'était, car elle se dressait seule. Et cette colline se nommait Amon Ereb. Sur l'Amon Ereb mourut Denethor, seigneur des Nandor de l'Ossiriand, qui marcha en renfort de Thingol contre Morgoth, au temps où les orques descendirent en force pour la première fois, brisant la paix étoilée du Beleriand. Et Maedhros vécut sur cette colline après la grande défaite. Mais au sud de l'Andram, entre le Sirion et le Gellion, s'étendait une contrée sauvage couverte de forêts inextricables qu'aucun des peuples ne fréquentait, sinon ici et là quelques elfes sombres en errance. Taur Imdwinath était son nom, la forêt entre les fleuves. Le Gellion était un grand fleuve. Il sourdait à deux endroits et avait d'abord deux bras. Le petit Gellion, venant de la colline de Imring, et le grand Gellion, qui descendait du mont Rerir. Après les avoir réunis, il parcourait 40 lieues vers le sud avant de rencontrer ses affluents. Et avant de trouver la mer, il atteignait 2 fois la longueur du Sirion, tout en étant moins large et moins gonflé, car il pleuvait plus souvent au Ithlum et au Dorthonion, où le Sirion puisait ses eaux que dans l'Est. Issus des Eredluin, les affluents du Gellion étaient au nombre de 6. L'Ascar, que l'on nomma plus tard Rathloriel, le Thalos, le Legolin, le Brilthor, le Dwilwen et l'Adurant, tous rapides et turbulents, car ils plongeaient des hauteurs. Et entre l'Ascar au nord et l'Adurant au sud, bornés par le Gellion et les Eredluin, s'étendait la lointaine et verdoyante contrée d'Ossiriand, le pays des 7 rivières. Or, la rivière Adurant, presque à mi-chemin de son cours, se divisait en 2 avant de se rejoindre. Et l'île enserrée par ses eaux se nommait Tol Galen, l'île verte. C'est là que vécurent Beren et Luthien après leur retour. En Ossiriand demeuraient les elfes verts sous la protection de leur rivière, car après le Sirion, Ulmo chérissait le Gellion plus que toutes les eaux du monde occidental. Les elfes de l'Ossiriand connaissaient si bien la forêt qu'un étranger eût pu traverser leur pays d'un bout à l'autre sans apercevoir aucun d'eux. Au printemps et à l'été, ils se vêtaient de vert et la mélodie de leur chant s'entendait même par-delà les eaux du Gellion. Ce pourquoi les Noldor donnèrent à cette contrée le nom de Lindon, le pays de la musique, et celui d'Ered Lindon, aux montagnes qui lui étaient adossées, car il les avait vues pour la première fois depuis l'Ossiriand. À l'est du Dorthonion, plus qu'en tout autre lieu, les marches du Beleriand étaient ouvertes aux attaques, et seules des collines de faible élévation gardaient le Val de Gellion contre le nord. Dans cette région, sur la marche de Maedhros et dans les terres en retrait, vivaient les fils de Fëanor avec un peuple nombreux. Et leurs cavaliers parcouraient souvent la grande plaine du nord, Lothlan, la vaste et vide, à l'est d'Ardgalen, de crainte que Morgoth ne tentât une sortie vers le Beleriand de l'est. La principale citadelle de Maedhros se dressait sur la colline de Imring, la toujours froide. Dénuée d'arbres, elle présentait de larges épaulements et un sommet aplati, et de nombreuses petites éminences étaient réunies aux alentours. Entre Imring et le Dorthonion, s'ouvrait un col, excessivement abrupt sur sa face occidentale, et c'était là le col d'Aglon, qui donnait accès au Doriath. Et un vent glacial venu du nord ne laissait pas de s'y engouffrer. Mais Celegorm et Corufin fortifièrent l'Aglon et y tinrent une importante garnison, comme dans tout le pays de Imlad au sud, entre la rivière Aros qui sourdait au Dorthonion, et son affluent, le Kelon, qui descendait de Imring. Entre les bras du Gellion se trouvait le domaine de Maglor, et il y avait là un endroit où les collines s'interrompaient complètement. C'est par là que les orques étaient entrés en Beleriand de l'Est avant la troisième bataille. Aussi les Noldor tenaient-ils une force de cavalerie à cet endroit de la plaine, et le peuple de Calanthir fortifia les montagnes à l'est de la brèche de Maglor. Là, le mont Rerir et alentour bon nombre de sommets moins importants se détachaient de la chaîne principale des Eredlindon du côté ouest. Et dans l'encoignure entre le Rerir et les Eredlindon, il y avait un lac, ombré de tous côtés par les montagnes, hormis au sud. C'était le lac Elevorn, aux eaux sombres et profondes, au bord duquel Calanthir avait résidence. Mais tout le vaste pays entre le Gellion et les montagnes, du Rerir jusqu'à la rivière Askar, les Noldor l'appelaient Thargelion, c'est-à-dire le pays d'Outre-Gellion, ou Dor Calanthir, le pays de Calanthir. Et c'est ici que les Noldor rencontrèrent les nains pour la première fois. Mais chez les elfes gris, le Thargelion se nommait auparavant Talath Runen, le Val de l'Est. Ainsi, les fils de Fëanor, sous l'autorité de Maedros, étaient seigneurs du Beleriand de l'Est, tandis que la plupart des leurs vivaient dans le nord du pays, ne venant au sud que pour la chasse en forêt. Mais c'est là qu'Amrod et Amras s'étaient établis, et ils vinrent rarement au nord tant que dura le siège. Et d'autres seigneurs des elfes s'y rendaient parfois à cheval, même de lointaines contrées, car c'était un pays sauvage, mais d'une grande beauté. De cela, c'est Finrod Felagund qui venait le plus souvent, car il se plaisait fort aux errances, et il se rendit même en Osiriond et gagna l'amitié des elfes verts. Mais aucun des Noldor ne franchit jamais les Eredlindon tant que dura leur royaume. Et le Beleriand recevait peu de nouvelles, et tardivement encore, de ce qui se passait dans les régions de l'Est.